Bonjour. Alors aujourd'hui, on s'attaque à une question un peu, un peu délicate, mais bon, faut avouer, elle est universelle. Pourquoi est-ce qu'on tolère plus facilement nos propres odeurs corporelles, disons nos flatulences par exemple, que celles des autres, hein? Ça peut sembler trivial, mais c'est une super porte d'entrée pour explorer un univers fascinant, celui de notre perception des odeurs. Qu'est-ce qui fait qu'une odeur nous semble bonne ou mauvaise? C'est inné ou c'est appris?
C'est exactement ça le cœur du sujet, cette distinction qu'on fait tout le temps, parfois en une fraction de seconde, d'où elle vient? Est-ce que c'est purement biologique, un réflexe vérité pour la survie, ou est-ce que c'est plutôt façonné par notre culture, nos expériences, notre vécu? C'est une interaction assez complexe en fait.
Et pour décortiquer tout ça, on va s'appuyer sur les infos d'un article qui s'appelle « Odeur, entre inné et acquis, une affaire de cerveau ». L'objectif aujourd'hui, démêler ensemble ce mélange entre instinct et apprentissage qui influence si fort notre odorat et nos jugements. Comprendre un peu mieux ce qui se joue dans notre nez et surtout dans notre cerveau. Bon, alors, plongeons dans cette analyse. Commençons par le début, si on veut bien. Les odeurs, ça a un impact physique et émotionnel réel. C'est pas juste des concepts abstraits, quoi. Qui n'a jamais été réveillé par l'odeur du café frais? C'est presque magique, ça nous sort du lit. Ou à l'inverse, l'effet quasi immédiat des sels d'ammoniac pour ranimer quelqu'un. C'est puissant, c'est direct.
Oui, tout à fait. Ces réactions physiologiques, elles sont bien réelles et souvent immédiates. L'odeur, en fait, elle attend directement des zones du cerveau qui sont liées aux émotions, à la mémoire, le système limbique notamment. C'est pour ça qu'une odeur peut déclencher un souvenir très vif ou une émotion forte, quasi instantanément. Par contre, comme le dit bien notre source, coller une étiquette universelle bonne ou mauvaise sur une odeur, c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air.
Ah, parce que ce n'est pas l'odeur elle-même qui porte l'étiquette.
Exactement. L'odeur, c'est un signal chimique, une molécule volatile captée par nos récepteurs. Mais c'est notre cerveau qui va interpréter ce signal. Et cette interprétation, elle est le fruit d'un dialogue constant entre, disons, notre nature biologique et puis tout ce qu'on a appris, notre culture. C'est vraiment une combinaison des deux. Une sorte de négociation interne permanente.
D'accord. Parlons de cette part de nature alors, l'inné. Quand on sent une odeur pour la première fois, on a souvent une réaction très rapide, agréable ou désagréable. D'où ça vient, cette première impression si instinctive, avant même d'avoir associé l'odeur et quoi que ce soit?
Cette réaction initiale, elle puise largement ses racines dans notre instinct de survie, quoi. C'est un legs de notre longue histoire évolutive. Il y a une forte composante innée qui est liée à notre protection. Prenez des exemples clairs. L'odeur de décomposition, de pourriture, un œuf gâté, une viande avariée. Le dégoût est quasi universel et immédiat chez les humains et chez beaucoup d'animaux, d'ailleurs.
Oui, logique. Ça nous évite de manger un truc dangereux.
Précisément. La nature nous a comme programmés pour identifier et éviter les substances qui pourraient être toxiques ou pathogènes. L'odeur fétide, c'est un puissant signal d'alarme. Attention danger, touche pas, mange pas. Et de la même manière, l'odeur âtre, piquante de la fumée, ça déclenche une alerte instinctive de danger imminent, le feu. Même sans avoir jamais vécu d'incendie, cette odeur provoque une réaction de rejet ou au moins de méfiance. C'est un mécanisme de défense fondamental gravé dans notre biologie.
Et la source mentionne d'ailleurs un truc assez frappant là-dessus, sur les personnes qui perdent l'odorat.
Ah oui, les personnes anosmiques, c'est ça, celles qui sont privées du sens de l'odorat. L'article souligne qu'elles ont un risque beaucoup plus élevé d'intoxication alimentaire. Sans ce système d'alerte olfactif, elles ne peuvent pas détecter si un aliment est périmé, avarié, juste par l'odeur. Ça montre bien le rôle vital et souvent sous-estimé de l'odorat pour notre sécurité la plus élémentaire. Et puis, au-delà de la nourriture, c'est crucial aussi pour détecter les fuites de gaz, par exemple.
C'est vrai, on n'y pense pas toujours à ça. Et la biologie, elle semble aller encore plus loin pour expliquer cette base innée. L'article parle d'une étude sur des souris qui est assez révélatrice, non ?
Oui, absolument. C'est une piste de réponse fascinante qui vient des neurosciences. Des chercheurs ont exposé des souris à différentes odeurs. Certaines considérées comme plaisantes pour elles, comme une odeur de fruits mûrs, et d'autres déplaisantes, genre une odeur de prédateur ou de pourriture. Et ils ont observé que dès la toute première exposition, ces deux types d'odeurs n'activaient pas les mêmes circuits neuronaux dans le cerveau des souris.
Attendez, ça veut dire que le cerveau sait direct si c'est bon ou mauvais, sans avoir appris ?
C'est ce que l'étude suggère très fortement, oui. L'information olfactive, elle prend un chemin neuronal différent selon ce qu'on appelle la valence de l'odeur, c'est-à-dire sa charge émotionnelle de base, positive ou négative pour l'animal. Et encore plus fort, les scientifiques ont réussi à manipuler artificiellement ces circuits.
Manipuler, comment ça ?
De pourriture, normalement répulsive, tout à coup attrayante pour la souris.
Ouais.
L'animal se mettait à la chercher. Et inversement, ils ont réussi à transformer l'attrait pour une odeur agréable en une réaction de peur, de fuite.
C'est dingue, ça. On peut donc recâbler le cerveau pour changer complètement la perception d'une odeur.
Chez la souris, là, en tout cas en laboratoire, oui. Ce que ça implique pour nous, c'est qu'il existe probablement un codage neuronal prédéfini, une sorte de cartographie olfactive de base, héritée de l'évolution. Cette carte donnerait une valeur hédonique, un caractère agréable ou désagréable à certaines odeurs avant même toute expérience. C'est un flair inné pour distinguer vite ce qui est bon pour nous, nourriture, partenaire, de ce qui est dangereux, poison, maladie, prédateur.
D'accord, je vois. Il y a donc une base biologique solide, un instinct olfactif hérité. Mais alors, si tout était déterminé par ce câblage de départ, on devrait tous aimer et détester exactement les mêmes odeurs. Or, on sait bien que c'est pas le cas. Il suffit de voir les débats autour de certains fromages forts, par exemple, ou même certains parfums. Mon voisin, il adore une autre colonne que, perso, je trouve insupportable.
Ah, vous mettez le doigt sur la deuxième pièce maîtresse du puzzle, la part énorme de l'acquis. Si la biologie nous donne une sorte de trame de fond, eh bien nos expériences personnelles, notre éducation, notre culture, elles viennent broder par-dessus. Elles modifient, nuancent et parfois même elles contredisent complètement ces prédispositions innées. C'est là que la subjectivité entre en jeu massivement.
Et l'exemple du fromage que vous citez, il est parfait pour illustrer ça, j'imagine ?
Oui, l'exemple du camembert ou d'autres fromages bien affinés, il est classique et très parlant. Pour beaucoup de gens en France ou dans des cultures où ces fromages sont communs, leur odeur est non seulement tolérable, mais souvent appétissante. Elle est associée à la convivialité, au plaisir. C'est une odeur familière et positive. Mais présenter la même odeur à quelqu'un d'une culture où ce type de fermentation est inconnu.
Il ou elle risque de trouver ça juste horrible, non ? Proche de l'odeur de pied ou d'un truc pourri.
Exactement. Pour un nez qui n'est pas habitué, l'odeur complexe qui vient de l'activité des bactéries, des champignons, elle peut être perçue comme un signal de décomposition, donc négative si on suit la logique de l'inné. Ça montre de manière éclatante que la valeur positive ou négative qu'on attribue à une odeur dépend énormément de notre familiarité, de notre apprentissage culturel, des associations qu'on a construites.
Et cet apprentissage, il n'est pas figé une fois pour toutes, j'imagine. Nos goûts peuvent changer.
Tout à fait. La plasticité de notre système olfactif et de son interprétation par le cerveau est remarquable. On peut apprendre à apprécier une odeur qui nous rebutait au début. Pensez au café, à la bière, ou même des trucs très forts comme le durian pour ceux qui s'y habituent. Et l'inverse est vrai aussi. Une odeur qu'on adorait peut devenir insupportable après une mauvaise expérience. Si on est malade après avoir mangé un certain plat, juste son odeur peut ensuite provoquer la nausée pendant des années. C'est une forme d'apprentissage associatif très, très puissant. Notre vécu vient constamment réécrire notre carte olfactive.
L'article donne un exemple assez fort sur comment ce conditionnement commence dès l'enfance. Avec une odeur pourtant très commune.
Oui, l'exemple des excréments. Un bébé ou un très jeune enfant, au début, il n'éprouve pas de dégoût particulier pour l'odeur de ses propres selles. Pour lui, ce n'est pas mauvais en soi. C'est le regard des autres, les réactions des parents, les grimaces, les mots comme sale, caca, burk, et puis l'apprentissage de la propreté, l'association répétée de cette odeur avec quelque chose dont il faut se débarrasser. C'est tout ça qui lui enseigne progressivement le dégoût.
Donc, le dégoût pour certaines odeurs corporelles sales, c'est en grande partie une construction sociale, culturelle.
En grande partie, oui. Bien sûr, des odeurs extrêmes de putréfaction ou d'ammoniac pur, ça peut déclencher une réaction négative plus directe, sans doute liée à l'inné. Mais pour beaucoup d'odeurs considérées comme sales ou mauvaises dans une société donnée, le dégoût est appris. Il est conditionné par les normes sociales, l'éducation à l'illienne. C'est un apprentissage essentiel pour vivre ensemble, mais ça montre bien que ce jugement n'est pas universellement câblé. Et ces normes culturelles, elles imprègnent tout notre environnement olfactif. On s'habitue et souvent on apprécie les odeurs de notre cuisine, les parfums de nos proches, les senteurs de chez nous. Ce qui est familier est souvent perçu comme neutre ou même rassurant. À l'inverse, une odeur inconnue, même si elle n'est pas dangereuse biologiquement, peut nous sembler étrange, voire désagréable, juste par manque d'habitude. Pensez aux épices d'une cuisine très différente quand on voyage.
Ça va être un peu déroutant au début, avant qu'on s'habitue ou qu'on apprenne à aimer, peut-être.
Exactement. Chaque culture a son propre paysage olfactif, avec ses odeurs valorisées, certaines fleurs, certains encens, certaines cuisines, et ses odeurs considérées comme taboues ou impures. Et ce paysage, il évolue même avec le temps. L'article mentionne l'évolution historique des sensibilités, les parfums très forts, animaux, musqués, qui étaient à la mode à certaines époques, comme le Moyen-Âge ou le XVIIIe siècle. Ils nous paraîtraient sans doute très, très forts, voire écœurants aujourd'hui. On préfère souvent des senteurs plus légères, florales ou propres. Notre nez est donc aussi le produit de son temps et de sa société.
Tout ça nous ramène, astucieusement, à notre point de départ, la question des flatulences.
Mmh.
Si le jugement dépend tant de la familiarité, du contexte, ça explique peut-être pourquoi on tolère mieux les siennes. L'article confirme qu'il y a bien une explication scientifique derrière ça.
Tout à fait. Ce n'est pas juste une impression ou de la mauvaise foi. Il y a principalement deux raisons scientifiques qui sont avancées et qui combinent des aspects psychologiques, sociaux et physiologiques. La première est liée à ce qu'on pourrait appeler la proximité sociale, le sentiment d'appartenance en quelque sorte.
C'est-à-dire qu'on est moins dégoûté par ce qui vient de notre clan, de notre groupe.
En quelque sorte, oui. Des études montrent qu'on a tendance à être moins révulsé par les odeurs corporelles. Transpiration, haleine, eh oui, même les flatulences des personnes qui nous sont très proches, très familières. Notre partenaire, nos enfants, parfois même nos amis très intimes, la famille proche. L'exemple classique, c'est les parents qui changent la couche de leur bébé. Ils le font généralement sans haut le cœur majeur. Alors que la même odeur venant d'un bébé inconnu, ça les incommoderait sans doute beaucoup plus.
C'est vrai ça, on accepte plus facilement les petits désagréments de nos proches.
Le cerveau semble moduler la réponse de dégoût en fonction de la perception de la source. Si la source est identifiée comme faisant partie de notre groupe, de notre intimité, le niveau de répulsion diminue. On peut y voir un mécanisme psychologique et peut-être même évolutif. Tolérer les petites imperfections olfactives de sa tribu, c'est essentiel pour la cohésion du groupe, la vie en communauté, s'occuper des petits. Inversement, une sensibilité plus forte aux odeurs des étrangers pouvait autrefois, dans un contexte plus primitif, servir d'alerte contre d'éventuels pathogènes différents des nôtres. Et comme le note la source avec humour, cette tolérance est plutôt utile dans la vie de couple au quotidien.
Ah oui, certainement. Et la deuxième raison alors ? Vous parliez de familiarité.
La deuxième raison, c'est la combinaison de la familiarité et de ce qu'on appelle l'adaptation olfactive. Notre propre signature olfactive, y compris les gaz qu'on produit, elle nous est intrinsèquement familière. Notre cerveau la connaît par cœur, si j'ose dire. Elle ne représente pas une surprise, pas un signal d'alarme nouveau ou dangereux qui viendrait de l'extérieur.
Et en plus, on s'y habitue, c'est ça ?
Exactement. C'est le phénomène d'adaptation ou d'habituation olfactive. Quand notre nez est exposé de façon continue à une odeur constante et non menaçante, surtout si elle vient de soi, le cerveau réduit progressivement sa perception consciente de cette odeur. Il la filtre pour ne pas être constamment submergé par cette information devenue non pertinente.
C'est un peu comme quand on ignore le tic-tac d'une horloge ou le bruit de fond du frigo chez soi. On ne l'entend plus au bout d'un moment.
C'est une excellente analogie.
Mmh.
Le principe est très similaire. Le cerveau va prioriser les nouvelles informations ou les signaux de danger potentiels. Votre propre odeur corporelle ou même le parfum que vous portez, vous ne les sentez plus consciemment après quelques minutes, alors que les autres, eux, les perçoivent. Appliquons ça aux flatulences. La composition chimique de l'odeur n'est pas fondamentalement différente pour votre nez, mais votre cerveau la classe immédiatement comme odeur familière, vient de soi, contexte non menaçant. Du coup, il atténue l'intensité perçue, il la met comme en sourdine. Résultat, elle nous dérange beaucoup moins que la même odeur perçue comme une intrusion nouvelle et potentiellement désagréable si elle vient de quelqu'un d'autre.
Fascinant. Donc, familiarité et appartenance sociale. Et l'article ajoutait, avec une pointe d'humour, qu'il y a parfois une sorte de curiosité, voire de fierté un peu mal placée, à observer la réaction des autres quand l'odeur vient de nous. Mais bon, passons sur ce détail.
Pour conclure un peu cette exploration, on voit bien que percevoir une odeur comme bonne ou mauvaise, c'est loin d'être une simple question de chimie ou de préférence personnelle arbitraire. Ce n'est ni totalement objectif et universel, ni totalement subjectif et relatif. C'est vraiment un dialogue constant, subtil, entre notre héritage biologique et notre histoire acquise.
En somme, notre nez, c'est un peu comme un détective qui serait façonné à la fois par des millions d'années d'évolution pour qu'on survive, détecter le danger, trouver la nourriture, et en même temps, par notre culture, nos souvenirs, nos apprentissages les plus personnels.
C'est une très belle image, oui. D'une part, l'évolution nous a donné une sensibilité de base, un système d'alerte et d'attraction rapide face à certaines molécules clés. Et d'autre part, notre éducation sensorielle, notre environnement culturel, nos expériences vécues, les bonnes comme les mauvaises, viennent sculpter, moduler, renforcer ou parfois même inverser ces réactions instinctives tout au long de notre vie. Chaque jugement olfactif est le produit de cette double influence.
Alors, qu'est-ce que ça signifie pour nous, tout ça ? Essentiellement, que notre sens de l'odorat est une fenêtre incroyablement riche sur notre biologie, mais aussi sur notre histoire personnelle et collective. Nos préférences, nos aversions olfactives, elles racontent un peu qui on est, d'où on vient et ce qu'on a vécu.
Tout à fait. Et ça nous laisse avec une question ouverte pour continuer à réfléchir. Si nos jugements olfactifs sont si plastiques, si influençables par l'expérience et la culture, comment est-ce que notre rapport aux odeurs pourrait continuer d'évoluer à l'avenir ? Imaginons des environnements de plus en plus aseptisés, où on serait moins exposé à une diversité d'odeurs naturelles, ou à l'inverse, une exposition plus grande à des odeurs nouvelles via la mondialisation, ou même des expériences olfactives créées pour des mondes virtuels. Comment est-ce que ça pourrait remodeler notre carte olfactive, nos hiérarchies du bon et du mauvais.
C'est une perspective assez vertigineuse.
Oui, on peut l'aborder sous un autre angle, plus personnel peut-être. On parle souvent de l'impact de perdre la vue ou l'ouïe, mais on sous-estime peut-être l'impact de la perte, même partielle, de l'odorat, l'anosmie ou l'hyposmie. Au-delà des aspects évidents de sécurité, la nourriture, le gaz, quel effet plus profond ça peut avoir sur notre bien-être émotionnel, notre plaisir de manger, nos souvenirs, nos relations sociales, notre connexion intime au monde. C'est un sens plutôt discret, mais dont l'absence ou l'altération peut avoir des conséquences bien plus importantes qu'on ne l'imagine sur notre qualité de vie. Voilà de quoi continuer à humer le monde qui nous entoure avec un peu plus de conscience.